Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission des lecteurs sous les toits. Aujourd'hui, nous parlerons surtout des livres des auteurs que nous avons reçus pendant les dernières correspondances de Manosque qui se sont déroulées du 23 au 27 septembre dernier. Olivia vous parlera du livre de Jean Hatzfeld, Un papa de sang. Alphonsine, Il était une ville de Thomas Reverdy. Olivia à nouveau présentera L'imposteur de Javier Cercas avec quelques lectures de Nathanel et de moi-même. David nous parlera du Petit Piment d'Alain Mabancou. Nelly de La Petite Femelle de Philippe Janeda. Et Nathanel et moi de La Terre qui penche de Carole Martinez. Olivia, tu voulais nous parler d'un papa de sang de Jean Hatzfeld.
Oui, donc on connaît la trilogie de Jean Hatzfeld dans laquelle il a recueilli la parole des rescapés et des tueurs rwandais après le génocide. Et dans un papa de sang, il donne la parole aux enfants qu'il a vus grandir puisqu'il y va régulièrement, et qui sont maintenant des jeunes entre 16 et 19 ans. Eux n'ont pas connu les machettes, mais toute leur enfance a été hantée par cette histoire. Et ce qui m'a interpellée, c'est que le sujet du génocide est vraiment devenu tabou. Entre eux, les jeunes n'en parlent jamais, et les parents ont énormément de mal à en parler à leurs enfants, et particulièrement les tueurs. Il donne la parole juste à quelques parents et je voudrais vous lire un passage. C'est Sylvie qui parle. Sylvie, c'est une assistante sociale qui a recueilli des orphelins après le génocide et qui a essayé de reconstituer des familles. Et voilà ce que dit Sylvie. En fait, elle évoque ce premier moment où Jean Hatzfeld est allé la chercher pour qu'elle parle. J'ai pensé, bon, on va essayer. J'ai écouté, tes paroles ne se voulaient pas blessantes à l'encontre des personnes. Pas de piège, tu hésitais. L'homme qui hésite, on peut le rattraper. Tu t'es montré posé. J'ai pensé que tu n'allais pas compter ton temps pour les entendre. À cette époque, un rescapé craignait tellement qu'on ne puisse entendre ses paroles un peu chaotiques. C'était souffrant d'être mal écouté. Il perdait courage, il s'habituait à se taire. Tu as essayé de te rapprocher du génocide comme moi. Et voilà la magnifique parole qu'elle dit pour évoquer cette écoute. Au fond, nos boulots se croisent quand même. S'asseoir au bout du banc, aux côtés de Jean, réfléchir aux questions à poser, écouter les mots qui contournent par derrière les histoires, ne pas délaisser les silences ni le passé pour aller où ça nous emmène. Je tenais à partager cette parole parce que dans cette parole, il y a tout le travail d'écriture de Jean Hatzfeld qui est de recueillir une parole orale, créole, très expressive, et puis d'arriver à nous la transmettre par écrit. Je voudrais aussi vous lire un passage sur la difficulté des enfants de tueurs, car quand le papa est encore en prison, eh bien, même s'ils étaient bons à l'école, ils ne peuvent plus étudier. Il faut qu'il retourne sur la parcelle cultivée pour aider la mère. Si le papa n'avait pas trempé dans les tueries, j'étudierais les mathématiques ou l'économie. Je ne me vois aucune chance d'esquiver les conséquences des tueries. Est-ce que j'espère quand même une existence plus joyeuse? Je crois, sans savoir laquelle imaginer, parce que je me suis déjà habituée à la colline. Quand la fatalité vous trace une ligne, on se conditionne à la suivre. On s'accoutume à la sombre réputation du génocide. Si Dieu m'a voulu sur la parcelle, est-ce que je peux m'en écarter ? Je ne sais que répondre. Mais au fond, toute destination qui m'éloignerait de Kiganwa, même de Nyamata, serait un peu bénie. Et je vais faire suivre avec un jeune dont le père est actuellement en prison. Si le papa sort de Rilima, je vais l'interroger. J'espère qu'il va proposer des réponses acceptables pour un fils. Sinon, ça sera pénalisant, j'en serai malheureux. Ça se comprend, non ? Avant, je me contentais de ce que j'écoutais à l'école. Maintenant que l'on jase sur le crime d'Ernestine, je dois puiser des informations familiales. Des rêves me paniquent la nuit. De pénibles visions défilent. Voilà, il se trouve que beaucoup d'enfants ont eu connaissance du génocide au travers de l'école et de la radio. Mais cette parole que ses parents doivent leur transmettre, ils l'attendent profondément. Et ça, j'ai trouvé que c'était universel. Toute famille peut parfois priver l'enfant de parole sur des choses qui les ont trop fait souffrir. Je voudrais aussi dire que Jean Hatzfeld nous a parlé de son travail auprès de ces jeunes, et comme tout adolescent, ils parlent très peu de leurs relations avec les autres, ils parlent très peu de leur vie, mais il a découvert que leur bonheur, ça avait été de parler de leur papa et de leur maman. Il nous a aussi parlé des tueurs, des Hutus qui ne sont pas en prison et qui vivent bien. Parce qu'ils croient tellement à leurs mensonges, à ce qu'ils se sont racontés, que ça ne les empêche pas de vivre. Et Jean Hatzfeld pense que si vraiment ils regardaient les choses en face, ils en mourraient.
Merci Olivia. C'était donc Un papa de sang de Jean Hatzfeld. Alphonsine et Nathanaël vont maintenant vous parler d'Il était une ville de Thomas Reverdy.
Il était une ville, écrit par Thomas Reverdy. Celui-ci est paru chez Flammarion en août 2015. Thomas Reverdy a été invité aux correspondances en 2013 pour son livre Les Évaporés. Et nous l'avons reçu même aux apéros littéraires. Ce roman-ci, par contre, s'inspire d'une catastrophe humaine, industrielle et économique qui s'est abattu en 2008 sur Détroit, ville du Michigan, au nord-est des États-Unis. C'était la capitale de l'industrie automobile. Thomas Reverdy nous emmène avec talent et brio au cœur de la catastrophe, en nous contant l'amour et l'espoir. Tout d'abord, l'amour de Georgia pour son petit-fils Charlie qui disparaît. Et je vais vous lire donc le passage concernant sa disparition. Elle conduisait et elle ne savait pas où elle allait. Elle filait, poursuivie par une peur obscure comme la ville, une peur silencieuse et sauvage qui la tenaillait depuis qu'elle avait lu le mot de Charlie posé sur la table de la cuisine. Elle avait sillonné le quartier de long en large, n'avait croisé que des traînards isolés et des têtes à crack. Georgia était un pilier du quartier. Cela la fit souffrir de constater à quel point le quartier, son quartier, se mourait inexorablement. La rue s'élimait, tel un tissu qu'on ne parvenait plus à repriser. Les maisons ne se vendaient pas. C'était incompréhensible pour Georgia. La crise du système bancaire, les subprimes, la titrisation des dettes, cela ne voulait rien dire. Mais elle en voyait le résultat tous les jours. Elle appelait ça la catastrophe, comme beaucoup de gens par ici. Avec la catastrophe, les maisons ne valaient presque plus rien. Les gens qui partaient finissaient par les abandonner purement et simplement. Et Charlie qui grandissait là-dedans. Charlie et ses 12 ans qui avaient laissé sur la table ce mot incompréhensible.
Je pars avec Bill et Strother pour quelque temps sans doute. Bill a eu des ennuis, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je reviendrai, mamie. Je vais bien.
Mon Dieu, Charlie, tu es si petit. On suit ensuite avec appréhension l'enquête de l'inspecteur Brown qui tente en vain de retrouver tous ces gosses qui disparaissent, ces adolescents. Et il est bien seul face au manque de moyens de la police. Donc là, pareil, je vais vous lire un extrait. On parle peut-être de dizaines ou de centaines de mômes qui se sont fait la malle ces derniers mois. Ils ont disparu, envolés. J'ai demandé aujourd'hui à un collègue de m'aider à recueillir des données sur d'autres quartiers de la ville. Mais il m'a ri au nez.
Tu crois qu'on n'a pas assez de problèmes avec ceux qui sont là ? Tu veux aussi t'occuper de ceux qui partent ?
Voilà ce qu'il m'a dit. Je sais que les autres pensent la même chose. Disparu, ce n'est pas un crime. Ensuite, l'amour naissant entre Candice, la serveuse au sourire brillant et rouge, et l'ingénieur français Eugène. Il est envoyé par la firme pour mettre en place un nouveau projet, l'intégrale, pour contrecarrer la faillite totale. Et pareil, un autre extrait. Les êtres qui vous émeuvent déplacent quelque chose en vous. Ils vous transforment, ils vous rendent meilleur. C'est ainsi que dans son rapport, Eugène parle de Candice. Son rapport pourrait aussi bien être le roman d'une histoire d'amour au temps des catastrophes. Ou un essai sur le rire rouge de Candice qui réchauffait l'hiver inhospitalier de Détroit et rendait la ville habitable. Il devint sensible aux intuitions des corps, à la volonté, au désir, à l'imagination. Et son cœur assoiffé se gorgeait d'un amour inattendu comme une éponge. Il apprenait, lui aussi, à n'avoir plus de nostalgie pour l'entreprise, pour la carrière qu'il aurait pu y faire, pour le grand projet de l'intégrale qui refroidissait avec le café dans la salle de conférence du 13e bureau. Vraiment, un roman bien structuré et d'une belle plume. Ici, il n'est pas question d'amour au temps du choléra, comme dans le roman de Gabriel Garcia Marquez, mais d'amour au temps des catastrophes. C'était « Il était une ville » de Thomas Reverdy.
Olivia, Nathanaël et moi allons maintenant vous présenter L'imposteur de Javier Cercas, paru chez Actes Sud. Longtemps, Javier Cercas a hésité à écrire ce livre sur Enric Marco, cet homme qui a défrayé la chronique quand on a su qu'il s'était fait passer pour un ancien héros de la guerre civile espagnole, un antifranquiste et un ancien déporté des camps de la mort. Javier Cercas nous livre ses questionnements, ses doutes, ses recherches sur la vraie histoire, la vraie personnalité de cet imposteur. Nous avons tous aimé ce livre, mais je crois que pour toi, Olivia, ça a été un vrai coup de cœur.
Oui, parce que, bon, on peut tout. Enfin, moi, j'ai été amenée dans ma vie à rencontrer un imposteur, entre guillemets, Et là, c'est le summum de l'imposture. Et Ravir Sarkas explore tous les aspects de ce qu'il peut vivre. Il aborde la chose de manière philosophique, littéraire, parce que finalement, un romancier n'est-il pas un imposteur, puisqu'il invente des vies. Or, Henrique Marcos s'est inventé sa propre vie. Mais il y en a forcément des conséquences sur les autres. Et Ravir Sarkas a l'honnêteté de faire une démarche historique et même presque... Bah tiens, par rapport à ça, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu en penses.
Oui, en effet, il a vraiment fait une démarche complètement d'historien. Alors déjà, il voue une admiration au premier historien qui a découvert l'imposture, donc de Henrique Marcos, qui, tout d'un coup, en faisant des rapprochements, s'est aperçu que la vie qu'il s'était inventée, donc de syndicaliste, d'antifranquiste et de déporté, était complètement fausse. Et le problème, c'est que déjà cet historien, avant notre auteur, s'est posé la question « Est-ce que je peux le dénoncer ?» Et en fait, il a pris la décision de le dénoncer lorsque Henrique Marcos, alors que c'était complètement faux, allait témoigner pour tous les déportés espagnols lors, il me semble, d'un anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et il trouvait que c'était vraiment trop grave, qu'il ne pouvait plus se taire, car ça risquait de dénaturer, voire même de mettre de l'eau du moulin à ceux qui nient la vérité des camps, si l'Espagne était représentée par un imposteur en tant que déporté. Donc, il l'a dit, à ses risques et périls, hein, parce qu'il a été injurié d'abord, cet historien, enfin, ça a été extrêmement violent. D'ailleurs, il le cite comme injuste. Du coup, Ravier Sarkas, notre auteur, a fait ce travail de fourmi, où il a vraiment comparé toutes les archives, enfin tout ce qui a pu se passer, ce qui a fait d'ailleurs dans le milieu, ce qui a donné lieu à une grande admiration dans le milieu des historiens français, puisque lors d'une émission sur France Culture qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin, Pascal Horry, plein d'autres historiens vraiment renommés ont dit « mais avec un travail comme celui-là, si les romanciers s'emparent de notre matériau, de l'histoire, ben on n'aura plus de boulot, on n'a plus qu'à descendre dans la rue. » Bon, ça, c'était une pointe d'humour, mais pour dire combien ce roman est vraiment documenté tout en restant un roman, puisqu'il y a éruption sans cesse de l'auteur qui nous fait part, hein, Sylvie et Olivia, vous êtes d'accord, de ses doutes, de comment il avance, de ses relations avec son fils aussi, qui ne peut s'empêcher, lui, son fils, de trouver cet imposteur absolument génial.
Ce qui m'a beaucoup choquée. Mais je lui pardonne parce qu'il est jeune. Et c'est vrai que moi, je trouve le livre génial. Mais ce gars, comme l'a quand même dit Ravir Sarkas de vive voix, il ne prononce pas du tout ce mot, enfin, il n'écrit pas du tout ce mot dans le livre, mais il dit que c'est quand même un monstre, ce gars. Et malgré cela, il l'approche avec beaucoup d'empathie parce qu'il veut essayer de le comprendre, sans quoi il n'aurait pas pu écrire ce livre.
C'est un monstre génial, on pourrait dire.
Et du coup, on va vous lire un petit peu un des dialogues qui se nouent entre l'auteur et Marco, donc notre imposteur monstrueux et génial.
J'ai eu une mauvaise vie. La chance ne m'a pas accompagnée.
Tu n'as pas eu tant de malchance que ça non plus, Henrique. Je veux dire, après, pendant l'après-guerre, pendant le franquisme et tout ça, tu n'as pas eu une si mauvaise vie. Tu avais ton travail, ta famille, ta vie ressemblait plus ou moins à la vie de tout le monde, non ?
Oui, je suppose que oui.
Puis Franco est mort et la liberté est arrivée. C'est alors que tu as dû te dire « Putain, c'est ça la vie !»
On a bu tout ce qui nous tombait sous la main, jusqu'à l'eau minérale. Quelle joie énorme c'était ! Ça, c'était grand !
Et alors ? Tu t'es mis à inventer ton passé ?
Ben oui, je suppose que oui. Je m'y suis sentie pratiquement obligée. Les gens étaient autour de moi et ils m'obligeaient, tous ces jeunes de familles riches.
Tu penses à Salsas et à Boada, à Ignacy de Guisper ?
Évidemment.
Je comprends, ils t'obligeaient, ils t'admiraient, ils te voyaient comme un héros.
Exact. Je ne voulais pas être un héros, mais je voulais qu'ils m'aiment, comme tu dis. Qu'ils m'aiment et qu'il m'admire. Et il m'aimait, et il admirait, je le crois bien. Les filles tombaient amoureuses de moi. Même dernièrement, quand j'étais à l'amicale, à 80 ans passés, il y avait des filles de 17 ans qui me disaient qu'elles m'aimaient. Elles me harcelaient presque. Eh oui, j'avais besoin que...
Qu'on t'aime et qu'on t'admire.
Oui.
Et juste un peu plus loin, il y a un passage, je trouve, qu'il a un culot monstre, où il dit plusieurs fois, je me suis dénoncée moi-même, j'en avais marre du mensonge, je voulais dire la vérité. Et même ça, l'écrivain est tenté de craquer un peu quand il entend ça, et même ça, en fait, c'est faux, quoi.
Et oui, même ça, c'est faux, même si toujours, parce qu'il vient toujours un petit peu à la décharge, à la défense de notre imposteur. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que Enric Marco est arrivé à un moment où l'Espagne avait besoin de se réinventer après le franquisme. Franco est mort et finalement, tout le monde va se réinventer un passé d'antifranquiste, un passé de républicain, et que finalement, tout le monde avait plus envie d'entendre Marco que de voir la réalité en face, c'est-à-dire que tout le monde avait suivi, tout le monde finalement s'était plié à la loi de Franco et que beaucoup... Bon, c'est peut-être pas vraiment le vocabulaire, il se rapproche plutôt de la France, mais tout le monde finalement avait collaboré à la dictature de Franco et très peu s'était élevé contre. Et en cela, Enric Marco avait plutôt été comme tous les Espagnols.
Et c'est pourquoi Javier Cercas dit « on est tous des imposteurs ». Parce que, voilà, d'une certaine manière, on a aussi été un peu là-dedans.
Voilà, bah écoutez, je pense que Lia t'a dit beaucoup de choses sur ce livre et j'espère que tu auras su convaincre nos auditeurs de lire absolument ce livre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, l'auteur était absolument charmant.
Ah, il était adorable. Voilà, il s'agissait donc de L'imposteur de Javier Cercas, paru chez Actes Sud.
J'aurais juste une petite chose.
Oui.
C'est ah ben mince, du coup j'ai oublié. Excusez-moi. Ça m'est parti.
David va maintenant nous présenter Petit Piment d'Alain Mabankou, que nous avons eu aussi le plaisir de recevoir aux apéros littéraires.
Tout avait débuté à cette époque où, adolescent, je m'interrogeais sur le nom que m'avait attribué Papa Mupelo, le prêtre de l'orphelinat de Loango. Tokumiza, Nzambe, Pomose, Yamuindo, Abotami, Namboka, Yabakoko. Ce long patronyme signifie en lingala « Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres et il est encore gravé sur mon acte de naissance ». Bon, on ne va pas raconter l'histoire de Moïse ici, mais c'est quand même l'histoire de Moïse et c'est trois vies dans une existence. Donc Alain Mabankou écrit ce livre, c'est son dernier livre, après avoir... écrit et publié une dizaine de romans. Et c'est à partir de celui-ci, ou plutôt du précédent, c'est-à-dire Lumière de Pointe-Noire, sorti en 2013, je crois, qu'il prend un genre plus intimiste. Il raconte, il se met peut-être plus en scène lui-même. Ça n'est pas autobiographique, mais c'est un petit peu de l'autofiction. On apprend dans ce roman... Je disais donc trois vies dans une existence. L'histoire d'un garçon de Brazzaville, au Congo, de Pointe-Noire, et les phases de son existence par lesquelles il passe, c'est-à-dire une première vie dans un orphelinat, puis à partir de l'adolescence, il émigre, entre guillemets, à Pointe-Noire, qui est donc le port du Congo. Et ensuite, bon, il lui arrive encore d'autres aventures. Alain Abancou est donc un auteur qui commence à marquer sur la scène littéraire francophone. Et il est enseignant de littérature francophone aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. Alors, je crois que je vais vous lire un passage qui me paraît assez représentatif du style et de l'histoire de Petit Piment. Alors oui, donc il s'appelle d'abord Moïse, ce garçon, et puis il devient Petit Piment à l'orphelinat, à l'occasion d'une péripétie avec des camarades, et on le baptise Petit Piment. Les après-midi, je rendais désormais visite à maman Fiat 500 et à celle qu'elle appelait affectueusement ses filles. Je restais des heures et des heures dans sa parcelle et j'étais heureux lorsqu'elle m'envoyait acheter de la boisson pour ses clients ou des pilules contraceptives, des capotes anglaises ou des médicaments pour calmer les douleurs des règles. Un jour que nous mangeions tous les deux dans son appartement, sans qu'elle me pose la question, je lui dévoilais que contrairement à ce que les filles et elle pensaient encore, je n'étais pas un de ces adolescents des rues de Pointe-Noire que j'avais fui l'orphelinat de Loango, il avait maintenant presque 3 années. Je lui avouais que mon vrai nom était Tokumisa Nzambe Pomose Yamoyindo Abotami Namboka Yabakoko. Elle faillit avaler son morceau de manioc de travers. Quel imbécile a eu l'idée de te coller un nom aussi prétentieux. Je lui parlais alors de Papa Mupelo et de sa danse des pygmées du Zaïr. Sans m'en rendre compte, je mimais cette danse pendant que je racontais comment Papa Mupelo l'exécutait. Maman Fiat 500 opinait du chef, et je la voyais elle aussi remuer des épaules, et me prenant de court, elle se mit debout, commença à bouger des reins, leva très haut les bras, poussa un cri du fond de sa gorge, et s'immobilisa comme une statue, ses yeux bien écarquillés sur moi. Je ne fus plus étonné de sa petitesse, de sa prestesse, lorsque je me rappelais qu'elle était du Zaïr comme Papa Mupelo, sans doute de la même ethnie, et que c'était donc normal qu'elle maîtrise la danse des pygmées, qu'elle réussissait d'ailleurs mieux que Papa Mupelo. Chez elle, tout était question de finesse et de suggestion, peut-être parce qu'elle fermait les yeux et que pendant ce temps, j'en profitais pour admirer ce corps en mouvement, ce derrière tracé sans hésitation au compas et cette poitrine qui semblait porter de gros fruits mûrs que n'importe qui aurait voulu cueillir et mordre à pleines dents. Donc voilà, ce petit passage montre un petit peu le style d'Alain Mabankou, qui est fait de truculence et de... Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements dans ce qu'il écrit. Et puis, on sent là, à travers cette lecture, l'Afrique que l'on connaît ou pas. Donc voilà, c'est l'Afrique, c'est le Congo. Bon, pour expliquer un petit peu, Maman Fiat 500, c'est en fait une maîtresse, comme on dit, une mère maquerelle, voilà, c'est ça, d'un bordel de Pointe Noire. Et elle a donc avec elle une dizaine de filles qui travaillent. Mais tout ceci est raconté avec beaucoup de naturel, beaucoup de bonhomie, d'authenticité, voilà, je crois que c'est le mot. C'est vraiment un roman, le roman de l'authentique. Et en même temps, Mabankou, je crois, parle aussi un petit peu de son enfance. On s'en est aperçu au moment où il a parlé effectivement, par exemple, de ses relations avec l'école quand il était petit et qu'il habitait Pointe-Noire et avec son instituteur. De cette façon-là, c'est-à-dire que bon, il racontait qu'il avait un instituteur qui, parce que pour être bon instituteur, ben, il fallait qu'il frappe les enfants. Donc, il frappait les enfants, mais lui ne voulait pas être frappé. Enfin, c'est des choses comme ça. Je vais vous lire encore un dernier passage. Donc il y a beaucoup de péripéties dans ce quartier des 300, ce quartier de Pointe-Noire. Bon, il y a la vie de maman Fiat 500, il y a la vie des filles, des gens qui viennent là. Mama Fiat 500 a beaucoup de clients, sans guillemets. Et puis il y a aussi dans ce livre-là une analyse un peu sociopolitique du Congo. C'est-à-dire que ça se passe au moment où le Congo devient république démocratique, enfin quelque chose comme ça, république socialiste. Et donc, tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, avec cette transformation. Il y a aussi des jalousies et des vengeances. Quelle ne fut pas ma surprise ce jour où je me pointais devant la parcelle de maman en Fiat 500 et que je ne trouvais qu'un champ de ruines, comme si une bombe avait tout fait s'écrouler pendant une guerre contre les Américains. Je croyais vivre une hallucination et cette sensation fut aggravée par une sorte de nuit qui recouvrait mes pensées. Le choc était si saisissant que je restais devant ces ravages pendant plus d'une heure à me demander ce qu'était devenu maman Fiat 500 et ses 10 filles. Je ne vis nulle part maman Fiat 500 et ses filles. Je pris le bus du retour vers ma cabane que je considérais désormais comme le seul lien qui me restait avec cette petite famille qui était certainement en route vers le Zaïre. Oui, les prostituées étaient originaires du Zaïre. Je tournais en rond dans cette petite parcelle. Je ne savais plus que faire et ignorais jusqu'à la notion du temps. Et c'est sans doute à partir de ce moment que j'ai commencé à sentir des trous béants dans ma tête, à entendre comme des groupes de personnes qui couraient à l'intérieur, des échos de voix qui parvenaient des maisons vides, des voix proches de celles de Bonaventure, de Papa Mupelo, de Sabine Nyangui, des jumeaux, mais surtout celles de Maman Fiat 500 et ses 10 filles. Puis plus rien, je ne me souvenais plus de rien, ni même de qui j'étais. Voilà, donc ça c'est un petit peu la c'est pas la fin du livre, mais c'est au moment où ce Moïse, petit piment, perd la raison. Et il y a encore quelques péripéties à la fin. Donc moi, j'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant par tout ce qu'il apporte de peinture du milieu, de la vie en Afrique et surtout la grande, comment dire, délicatesse qu'il a pour la description des personnes. Voilà, c'est un roman très, très humain, africain, mais très humain. Voilà. Donc, Petit Piment d'Alain Mabankou, chez Au Seuil, dans la collection Fiction et compagnie.
Maintenant vous présenter La petite femelle de Philippe Génada.
Qui est aux éditions Julliard en août 2015. Philippe Génada a aussi été un des auteurs ayant participé aux apéros littéraires de notre comité de lecture. Contrairement à des auteurs présents qui m'ont dit avoir lu et aimé tous ses livres, une dizaine, moi je ne le connaissais pas. En voyant au bureau des correspondances La petite femelle, j'ai hésité à le prendre. D'abord parce que le titre ne m'inspirait pas et ensuite à cause de son épaisseur de plus de 700 pages. Je comptais le lire un peu en diagonale pour pouvoir le passer rapidement à d'autres lecteurs. Mais je l'ai trouvé si captivant que j'ai lu presque chaque mot. C'est l'histoire vraie et bien documentée de Pauline Dubuisson, qui a été condamnée aux travaux forcés à perpétuité en novembre 1953. Elle sera libérée en septembre 1959 pour bonne conduite. Elle a été accusée d'avoir tué son amant, Félix Bailly, qu'elle connaissait depuis 3 ans, qui voulait l'épouser, mais qu'elle n'a pas pu se décider jusqu'au jour où il s'est fiancé à une jeune fille qui convenait parfaitement à sa famille, à lui. Alors Pauline, au cours d'une entrevue avec Félix, a sorti une arme et a menacé de se suicider. Félix s'est précipité sur elle et un coup est parti le tuant. Cette version n'a pas été acceptée par la cour ni par les jurés. L'auteur nous raconte le procès et le passé de la vie de Pauline, qui avait été élevée et scolarisée par son père jusqu'à 8 ans, je crois. Sa mère ne s'en occupait pratiquement pas. Elle avait des frères, mais son père ne leur trouvait pas assez de potentiel. Pendant l'occupation allemande à Dunkerque, Pauline négociait avec les Allemands des contrats pour l'entreprise de son père, car elle connaissait la langue. Elle n'avait alors que 14 ans et était belle et intelligente et a succombé aux avances des occupants. Comme elle voulait faire des études de médecine, elle a aidé comme volontaire dans un hôpital pendant la guerre. Une mauvaise réputation la suivra toute sa vie, de Dunkerque à Lille, de Lille à Paris et de Paris à Essaouira au Maroc. Je vais maintenant vous lire un petit passage qui montre aussi bien le style de l'auteur. Ce que redoutait le plus son père est en train de se produire malgré ses efforts. La part féminine passe à l'attaque, libérée, avec plus de force encore qu'il pouvait le craindre, car Pauline est une fille contrariée. Elle devient une bombe. Pour tenter de garder le contrôle de la situation et ramener sa pauvre enfant sur de bons rails, André commet une erreur de plus, et pas de la petite boulette d'épicerie fine. Il lui met tout Nietzsche entre les mains. À 11 ans, rien ne presse. Quelle pioche, quel picore. Le surhomme, la volonté de puissance, tout ça, ça ne peut pas lui faire de mal. Rien de spécialement masculin là-dedans. Attention, l'éternel retour, c'est sympa aussi. Il s'agit juste de réussir sa vie. Lis un peu avant d'éteindre. Bon. Maintenant, on continue un autre extrait.
Nous allons vous lire un autre extrait qui montre un petit peu Pauline pendant la guerre.
En cet été 1940, sur une corniche, au sommet d'un petit immeuble, une jeune fille insouciante en maillot de bain fait la belle au soleil. C'est Pauline.
Elle porte un maillot, une pièce à fines rayures en chevron, en coton épais mais très ajusté. Elle est coiffée à la mode du moment, le front dégagé, les cheveux en une sorte de rouleau au-dessus et ondulé derrière, jusqu'aux épaules. On comprend que c'est encore une petite fille, parce qu'elle porte des sequettes blanches dans ses sandalettes.
Hormis ce détail plouc, enfantin, on lui donnerait bien 17 ans ou 18 ans. Elle a de longues jambes, elle pourrait être une pin-up débutante.
Elle rit en regardant un appareil photo qu'elle tient dans les mains.
Il est petit pour l'époque. Ce doit être une acquisition récente de la famille, l'un des derniers modèles sortis.
Tandis que l'autre immortalise adolescente. Sur la terrasse en contrebas qu'on ne voit pas, il est possible que se trouvent quelques officiers allemands.
C'est peut-être même l'un d'eux qui la photographie.
À boire un verre au soleil en discutant avec André de retour de déroute. Après la guerre, plusieurs voisins habitant sur cour se feront un devoir d'indiquer aux autorités qu'ils l'ont vue de nombreuses fois.
Avec les boches.
Sur cette terrasse.
En petite tenue.
Et même, diront les plus vertueux.
Nue. On se représente bien la scène. La gamine, à poil, sur le toit, au milieu des militaires en uniforme, un bro à la main. Encore un petit peu de citronnade, Hermuller.
Elle rit ou sourit, mais ne lève pas les yeux vers l'objectif, ce qui lui donne un air un peu timide. La petite femelle sait qu'on la regarde.
Et encore un petit extrait. Dès le début de l'année 1947, des rumeurs commencent à circuler sur Pauline. Le passé est comme un chat qui retrouve son maître à des centaines de kilomètres. En général, le maître en question est heureux de le découvrir un matin sur son paillasson, tout amaigri et pouilleux, le pauvre. Mais dans le cas de Pauline, c'est plutôt sa hyène de compagnie qui revient gratter à sa porte. Elle n'a pas grand mérite, la hyène. Son odorat l'a certes conduite jusqu'à l'île, mais on l'a forcément aidée un peu à remettre la patte sur sa maîtresse. On se met à regarder Pauline de travers. Le bruit se répand vite, comme une poudre de traînée. Mauvaise française, collabo, pute à boche, et sa complicité, disons, avec Félix n'ayant échappé à personne, les amis auxquels il a fait part de ses sentiments éblouis et ceux qui n'en sont pas, mais qui se découvrent une âme de sauveur en le voyant pencher vers elle, s'empressent de l'avertir et de lui conseiller de se détacher de cette vipère au plus vite. Félix étant un garçon de cœur et l'amour étant ce qu'il est, il répond par exemple à un copain d'enfance qui essaye amicalement de lui ouvrir les yeux, calomnie. C'est une histoire très sombre, mais écrite avec beaucoup d'humour, de parenthèses et de digressions drôles et intéressantes.
D'ailleurs, je vais te couper pour donner juste un peu une illustration de ces digressions drôles. Oui. Voilà, Sylvie adore un petit passage. Donc, nous suivons l'auteur, comme vous l'avez compris, c'est quand même une histoire assez dramatique, hein, puisque c'est celle d'une jeune fille dont la vie a été... a été ternie par sa réputation et elle n'est pas arrivée à s'en relever jusqu'à une issue fatale. Donc, petite digression de l'auteur qui est en train d'expliquer l'éducation de Pauline. Et puis tout d'un coup, il nous dit...
Il ouvre une parenthèse.
Il faut que j'ouvre ici une parenthèse qui n'a pas tout à fait sa place dans l'histoire, mais je ne peux pas faire autrement car il vient d'arriver quelque chose de bouleversant, effrayant même, aux frontières du surnaturel, sans exagérer, il s'agit de saucisses.
Et là, il va se mettre à parler de saucisses. Un copain vient de l'appeler pour lui demander de venir faire un barbecue. Et lui, d'ailleurs, tu nous diras combien de fois tu as utilisé le mot saucisse dans tes bouquins. Et là, il ouvre son traitement de texte. Curieux de savoir combien de fois il a employé le mot saucisse, alors qu'il n'est absolument pas question de saucisse dans ses livres. Et il se rend compte qu'il a utilisé de nombreuses fois le mot saucisse. Et le seul livre dans lequel il ne l'a pas employé, il a utilisé le mot chipolata. Voilà, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, il raconte ça sur plusieurs pages. Donc, voilà, vous voyez un petit peu la teneur du livre. Un livre qui devrait être dramatique est souvent absolument hilarant.
Voilà. Il n'hésite pas à injurier certains journalistes, Plume de Fiel, qui, en fait, comme il prend fait et cause, lui aussi, pour cette Pauline, il en tombe un peu amoureux de Pauline Dubuisson. Donc, en fait, il houspille, il critique tous les journalistes qui ont participé à la chute de Pauline, qui se sont déchaînés contre elle.
Oui, oui. Et donc, moi, je compte le relire bientôt sans avoir à me presser. C'était donc La petite femelle de Philippe Génada aux éditions Julliard.
La terre qui penche, de Carole Martinez, paru chez Gallimard. Nous sommes en 1361, quelques années après la Grande Peste. Blanche, 11 ans, part pour un long voyage à cheval, accompagnée par son père, un seigneur cruel. Au château du domaine des Murmures, elle va rencontrer Aymon, 14 ans, son futur époux. Dans sa nouvelle demeure, Blanche va découvrir non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi l'amour et le secret de sa naissance. On avait reçu Carole Martinez déjà en 2011 pour son précédent roman qui s'appelait « Du domaine des murmures » qui avait d'ailleurs obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2011. Elle avait écrit aussi un premier livre qui s'appelait « Le cœur cousu » en 2007 et qui avait connu un grand succès par un spectaculaire bouche à oreille. ce qui n'est pas commun, parce qu'en général, on parle des livres et après, ils connaissent un succès. Et là, c'était le contraire, c'est les lecteurs qui ont fait le secret de ce livre. La Terre qui penche fait un petit peu suite, pas vraiment, on n'est pas obligé d'avoir lu du Domaine des Murmures pour lire La Terre qui penche, mais c'est un petit peu une suite, 200 ans après, car l'histoire se situe au même endroit, au Domaine des Murmures. Le château est toujours là, et certains personnages du récit du Domaine des Murmures réapparaissent. Évidemment, ils ne sont plus vivants parce que ça fait 200 ans que la première histoire est terminée, mais ils vont revivre sous une forme fantastique. Alors, l'action se situe au Moyen-Âge, après la Grande Peste de 1348. Nous allons vous lire un petit passage concernant cette Grande Peste.
Et le livre, il faut ajouter, il est à deux voix. Donc, dans ce livre, vous avez des chapitres qui sont, en fait, dits, qui sont consacrés à la petite fille, et des chapitres qui sont, en fait, dits
par la vieille âme.
Par la vieille âme. Donc, nous allons commencer par la petite fille qui parle de la peste. Le monde est plein d'enfants plus jeunes que moi. J'avais un peu plus d'un an quand la grande mort a frappé, emportant la moitié du monde. Les enfants surtout, et ma mère aussi, dont il ne me reste rien. Pas même le souvenir d'un sourire ou d'une caresse.
La vieille âme. Les enfants de ton âge étaient rares en ce monde. Ils étaient si petits lors du premier passage de la mâle mort, presque 10 ans plus tôt, qu'elle n'en avait fait qu'une bouchée. Elle avait dévoré la plupart des gamins, et nombre de ceux qu'elle avait épargnés s'étaient retrouvés sans famille. Elle avait massacré les hommes au gré de son voyage, cheminant de village en village, tranquillement, à la vitesse d'un marcheur, se promenant par la campagne, poussant les portes des villes, entrant dans les maisons, les chambres, les alcôves, les corps, éclatant les foyers.
Le comté, le pays, que dis-je, le pays, l'humanité, a mis 3 siècles à se reconstituer. Près d'un tiers du grand cheptel humain avait péri en 2 ans et les friches avaient repris les champs, les bois avaient envahi les maisons.
Voilà, donc elle parle de la grande peste. Alors, elle parle de beaucoup, beaucoup de choses dans ce roman. Blanche est en quête de son identité. Elle veut apprendre à lire, elle veut apprendre à écrire. Elle veut écrire son nom. Et là, on va vous lire un petit passage vous expliquant pourquoi elle veut absolument savoir écrire son nom.
« J'ai tant d'appétit pour les lettres et les mots que rien ne sert de me les badigeonner de miel. L'alphabet s'est fixé dans ma tête en 7 jours. C'est 7 jours qu'il a fallu à Dieu pour créer le monde. À mes yeux, les lettres sont de sucre et d'or. Elles ont la couleur dorée des cheveux démons. Elles sont ma liberté à venir. Elles feront de moi ma maîtresse. Et bientôt, je pourrai broder blanche au fil rouge sur ma petite chemise. Signer, réparer, écrire. Et mon nom ne sera plus seulement prononcé par la voix forte de mon père. Mon nom sera inscrit par ma main sur des parchemins où je reposerai éternellement. J'ai compris que je dirigerai un jour le domaine où nous sommes, que j'en serai la maîtresse à la place d'Aimon, qui jamais ne saura ni lire ni écrire et se contentera de courir la campagne. C'est pour cela que l'on m'a fait venir si tôt, pour m'instruire avant que je ne devienne sa femme. Et finalement, bien qu'il soit tellement sot, je le préfère au diable agile et filou. »
Voilà, donc... Aimon, vous avez vu, le futur mari de Blanche, est un être simple, mais qui est en parfaite symbiose avec la nature. Blanche va connaître donc également dans ce livre ses premiers émois amoureux avec Aimon, mais aussi avec Éloi, le jeune charpentier. On va rencontrer beaucoup de personnages hors du commun. Le père, dont on a un petit peu parlé, ce personnage cruel, mais c'est pas si simple. Pourquoi est-il cruel? On va découvrir au fil du livre tout un pan de son histoire, à laquelle évidemment l'histoire de Blanche est liée. On va aussi découvrir l'ogre, le chevalier dévoreur d'enfants, celui qui en particulier a violé puis assassiner les filles de la cuisinière Guillemette. Cette cuisinière Guillemette qui est un personnage fantastique, qui possède un don et grâce auquel ses fillettes revivent comme des petits fantômes. On va peut-être vous lire un petit passage de Guillemette et des petits fantômes.
Oui, parce qu'en fait, Aimant et Blanche se sont perdus dans la forêt, ont trouvé la maison de Guillemette, mais tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus sortir de la clairière où est la maison de Guillemette. Un enchantement vous attachait à la maison de Guillemette. Dans ses bois touffus, toute ligne droite tournait en rond et la clairière était là au bout de chaque promenade. Comme la seule destination possible. Vous saviez pourtant que les fillettes rouges sortaient de la forêt puisqu'elles jouaient souvent par le pays à effrayer les vivants en leur montrant leurs dents de lait. Les petits fantômes connaissaient le chemin, mais vous, vous n'arriviez jamais à les suivre. Leurs pas ne laissaient pas d'empreinte dans la neige et elles s'évanouissaient entre les arbres.
Voilà, le fantastique fait très souvent irruption dans les livres de Carole Martinez. On pourrait citer beaucoup d'exemples. La petite fille a sur son habit trois loups brodés, des loups brodés. Et de temps en temps, ces loups sortent de l'habit pour protéger la petite fille dans la forêt quand elle est en danger. Il y a aussi la Dame Verte. La Dame Verte, c'est la personnification de la rivière, la Loue. La Loue, dans laquelle se noient beaucoup de personnes, dont les hommes, des hommes qui plaisent à la Dame Verte. La Dame Verte en fait ses amants, puis après elle les noie. Il y a beaucoup d'interventions comme ça. La forêt est magique aussi. On l'a un petit peu vu dans le passage qu'a lu Nathanaël. Donc la nature aussi est très très présente. C'est vraiment un très très beau livre où il y a beaucoup de choses. Voilà. En fait, c'est un hymne à la terre, un hymne à la campagne aussi.
Voilà, c'est un livre extrêmement littéraire, extrêmement poétique. Il est parsemé en fait de poèmes ou de chansons. Alors pas nécessairement revendiquées comme étant du Moyen Âge, mais qui se sont transmises. Donc elle pense que c'était des vieux fonds quand même originaires, enfin du Moyen Âge. Et c'est donc une écriture, sans doute, de tous les auteurs que nous avons reçus, l'écriture la plus littéraire.
La plus poétique aussi. Voilà. La plus poétique aussi. C'est vrai que toutes ces petites ritournelles émaillent le livre. On trouve, par exemple, dans un grand lit, au marché du palais, on trouve ce genre de petites ritournelles, de petites chansons de la tradition orale qui parcourent le livre. Pareil, cette structure du roman avec les deux voix, la voix de la petite fille et la voix de la vieille âme, font de ce livre un récit vraiment intéressant et avec beaucoup beaucoup de charme. Donc c'était La Terre qui penche de Carole Martinez, paru chez Gallimard. Nous avons parlé donc aujourd'hui de Un papa de sang de Jean Hatzfeld, présenté par Olivia. Alphonsine vous a présenté Il était une ville de Thomas Reverdy. Olivia, l'imposteur de Javier Cercas. David nous a parlé de Petit piment d'Alain Mabancou. Nelly de La petite femelle de Philippe Génada. Et Sylvie et Nathanaël, La terre qui penche de Carole Martinez.
Le mardi 17 novembre à 18h, le prochain comité de lecture, et il sera sur la littérature contemporaine italienne. Et cela sera fait en partenariat donc avec le comité de jumelage Manosque Voghera, qui, comme chaque année, nous a offert un lot de livres, qui sont d'ailleurs disponibles à la médiathèque. On peut les emprunter si vous souhaitez participer au comité. Puis, le jeudi 19 novembre, eh bien, il y aura à nouveau notre émission avec Des lecteurs sous les toits.
À 15h, comme aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.
Bonne lecture. Merci Emeline.
Au revoir. Merci et à bientôt.